La nuit du Capitole.
Les voyageurs s'étaient installés dans une osteria du Campo dei Fiori, à l'heure où les marchands de criardes soldaient leurs bottes de roses et débarrassaient la place du tapis multicolore et embaumé de leurs éventaires. À la nuit tombante, ayant pris l'aubergiste pour guide, Giannino Baglioni se rendit au Capitole. L'admirable ville que Rome, où il n'était jamais venu et qu'il découvrait en regrettant de ne pouvoir à chaque pas s'arrêter. Immense en comparaison de Sienne et de Florence, plus grande même, semblait-il, que Paris ou que Naples, si Giannino se référait au récit de son père. Le dédale de ruelles s'ouvrait sur des palais merveilleux, brusquement surgis, et dont les porches et les cours étaient éclairés de torches ou de lanternes. Des groupes de garçons chantaient, se tenant par le bras à travers des rues. On se bousculait, mais sans mauvaise humeur, on souriait aux étrangers, les tavernes étaient nombreuses d'où sortaient de bons parfums d'huile chaude, de safran, de poissons frits et de viande rôtie. La vie ne semblait pas s'arrêter avec la nuit. Giannino monta la colline du Capitole à la lueur des étoiles. L'herbe croissait devant un porche d'église. Des colonnes renversées, une statue dressant un bras mutilé, attestaient l'antiquité de la cité. Auguste, Néron, Titus, Marc Aurèle avaient foulé ce sol. Colla de Rienzi soupait en nombreuses compagnies dans une vaste salle construite sur les assises mêmes du temple de Jupiter. Giannino vint à lui, mit un genou en terre et se nomma. Aussitôt le tribun, lui prenant les mains, le releva et le fit conduire dans une pièce voisine, où, après peu d'instants, il le rejoignit. Rienzi s'était choisi le titre de tribun, mais il avait plutôt le masque et le port d'un empereur. La pourpre était sa couleur. Il drapait son manteau comme une toge. Le col de sa robe cernait un cou large et rond, le visage massif avec des gros yeux clairs, des cheveux courts, un menton volontaire, semblait destiné à prendre place à la suite des bustes des Césars. Le tribun avait un tic léger, un frémissement de la narine droite qui lui donnait une expression d'impatience. Le pas était autoritaire. Cet homme-là montrait bien, rien qu'en paraissant, qu'il était né pour commander, avait de grandes vues pour son peuple, et qu'il fallait se hâter de comprendre ses pensées et de s'y conformer. Il fit asseoir Giannino près de lui, ordonna à ses serviteurs de fermer les portes et de veiller à ce qu'on ne les dérangeât point. Puis, tout aussitôt, il commença de poser des questions qui ne concernaient en rien les affaires de banque. Le commerce d'Hélène, les prêts d'argent, les lettres de change ne constituaient pas son souci. C'était Giannino uniquement, la personne de Giannino qui l'intéressait. À quel âge Giannino était-il arrivé de France? Où avait-il passé ses premières années? Qui l'avait élevé? Avait-il toujours porté le même nom? Après chaque demande, Rienzi attendait la réponse, écoutait, hochait le menton, interrogeait de nouveau. Donc Giannino avait vu le jour dans un couvent de Paris. Sa mère, Marie de Cressel, avait élevé jusqu'à l'âge de 9 ans en Île-de-France, près d'un bourg nommé Naufle-le-Vieux. Que savait-il d'un séjour qu'aurait fait sa mère à la cour de France? Le Siennois se rappelait-il les propos de son père, Guccio Baglioni, à ce sujet? Marie de Cressay, peu après avoir accouché de Giannino, avait été appelée à la cour comme nourrice pour le fils nouveau-né de la reine Clémence de Hongrie, mais elle y était peu restée, puisque l'enfant de la reine était mort au bout de quelques jours. Empoisonné, disait-on. Et Giannino se mit à sourire. Il avait été frère de lait d'un roi de France, c'était chose à laquelle il ne songeait presque jamais et qui lui paraissait soudain incroyable, presque risible, lorsqu'il se contemplait tout près d'atteindre 40 ans dans sa tranquille existence de bourgeois italien. Mais pourquoi Rienzi lui posait-il toutes ces questions? Pourquoi le tribun aux gros yeux clairs, le bâtard de l'avant-dernier empereur, l'observait-il avec cette attention réfléchie?
« C'est bien vous, » dit enfin Colla de Rienzi.
« C'est bien vous. » Giannino ne comprenait pas ce qu'il entendait par là. Il fut encore plus surpris quand il vit l'imposant tribun mettre un genou en terre et s'incliner jusqu'à lui baiser le pied droit.
« Vous êtes le roi de France, » déclara Rienzi. « Et c'est ainsi que tout le monde doit vous traiter désormais. »
Les lumières vacillèrent un peu autour de Giannino. Quand la maison où l'on se tient paisiblement à dîner se fissure soudain, parce que le sol est en train de glisser, quand le bateau sur lequel on dort vient en pleine nuit éclater contre un récif, on ne comprend pas non plus, dans le premier instant, ce qui arrive. Giannino Baglioni était assis dans une chambre du Capitole, le maître de Rome s'agenouillait à ses pieds et lui affirmait qu'il était roi de France.
Il y a eu 9 ans, au mois de juin, la dame Marie de Cressay est morte.
Ma mère est morte ? S'écria Giannino.
Oui, mon grandissime seigneur. Celle plutôt que vous croyez, votre mère. Et l'avant-veille de mourir, elle s'est confessée.
C'était la première fois que Giannino s'entendait appeler « grandissime seigneur », et il en demeura bouche bée, plus stupéfait encore que du baisse-pied. Donc, se sentant proche de trépasser, Marie de Cressay avait appelé auprès de son lit un moine augustin d'un couvent voisin, frère Jourdain d'Espagne, et elle s'était confessée à lui. L'esprit de Giannino remontait vers ses premiers souvenirs. Il voyait la chambre de Cressay et sa mère blonde et belle. Elle était morte depuis 9 ans, et il ne le savait pas. Et voilà qu'à présent, elle n'était plus sa mère. Frère Jourdain, à la demande de la mourante, avait consigné par écrit cette confession, qui constituait la révélation d'un extraordinaire secret d'État et d'un non moins extraordinaire crime.